Bonjour à tous, vous êtes bien sur Aligre FM 93.1 et comme tous les samedis de 18h à 19h, c'est l'émission Lusitania. Aujourd'hui, Lusitania avec Anita. Bonjour Anita.
Hola.
Et à la technique, Alexandre. Et aujourd'hui, Anita, tu nous as concocté une émission qui va partir tout en restant en France, du côté du Cap Vert.
Oui, tout à fait, parce qu'en fin de compte, nous avons la chance d'avoir, merci beaucoup à Jean-Philippe Leroy d'être
Bonsoir.
Ici présent, parce que finalement, tu es resté un peu plus de temps justement pour venir ici à Lusitania. Alors, je t'en remercie. Alors, il faut savoir que tu es photographe de métier, enfin, ta passion, on va dire, et cette passion t'a emmené à découvrir différents pays, aller à la rencontre des populations dans lesquelles tu étais en immersion. Et de ce voyage, eh bien, tu as eu un grand choc, un grand coup de cœur pour le Cap Vert, et dont actuellement tu es président de cette association que tu as fondée déjà un petit moment, qui s'appelle Regarde ailleurs, en 2006. Et tu t'es dit qu'il fallait faire quelque chose qui soit en retour par rapport à ce grand coup de cœur, parce que vraiment, la population du Cap Vert, en tous les cas pour Saint-Nicolas ou Saint-Antoine, là où tu as été, ils t'ont accueilli à bras ouverts. Ils avaient peu, mais avec le peu, ils t'ont donné une richesse extraordinaire et que toi, tu es un peu redevable. Et donc, d'où cette association ?
Oui, donc vous avez vraiment très bien résumé les choses. En fait, c'est vrai que le Cap Vert, pour moi, ça a été le chemin en fait, de la rencontre d'une population métissée. Donc, en fait, la photographie, pour moi, qui est un moyen aussi de rencontrer les populations, puisque je me concentre plutôt sur de la photo humaniste. Et c'est vrai qu'en 2005, j'ai décidé d'aller à la rencontre des populations capverdiennes avec un objectif de ramener des images donc noir et blanc sur la vie du Cap Vert, sur le peuple métissé, des différents faciès qu'on peut rencontrer sur les différentes îles du Cap Vert, parce que je le rappelle, le Cap Vert c'est une archipel de 10 îles qui se trouve au large du Sénégal, voilà exactement, ouais. Donc en fait au milieu de l'Atlantique, entre l'Afrique et le Brésil, et on a vraiment une richesse humaine au niveau de ces populations. Donc ça c'est quelque chose qui m'a intrigué au démarrage, un voyage que j'ai effectué en intégralité à pied, quitte à occulter une partie des îles, mais mon objectif était vraiment de rencontrer des gens, de m'immerger un petit peu dans la vie des gens, de façon à être, en tant que photographe, être un petit peu oublié, parce qu'en fait, pour faire de la photographie humaniste et de la photographie de la vie quotidienne, pour moi il faut être en retrait et il faut vraiment être dans le décor pour pouvoir faire pour pouvoir poser son regard de façon complètement respectueuse et un petit peu en retrait des gens sans vraiment les leur demander de poser en fait.
Oui. En retrait tu dis, mais moi je dirais aussi en proximité, parce que je veux dire, il y a un regard derrière, une angle particulier qui fait qu'on sent qu'il y a une proximité, qu'ils sont pas dans une forme d'agression, ce sont des visages ouverts avec un vrai sourire, des yeux qui sont très rieurs. Il y a une proximité, mais ils sont en sécurité. Enfin, tu vois, c'est pas des photos volées à cacher, quelque chose comme ça. Non, c'est on sent qu'il y a le respect de l'autre derrière.
Exactement. C'est vrai que c'est bien résumé. Hein. Moi, mon objectif, pour prendre un exemple, en fait, dans le deuxième reportage que j'ai effectué au Cap-Vert, donc en 2006, lors de mon troisième voyage, je me suis immergé dans les écoles pendant 5 semaines, et mon objectif a vraiment été effectivement de faire partie du décor, mais du coup en étant dans le décor, on est complètement dans le dans le sujet et on est effectivement avec une proximité. Et c'est vrai que le réflexe des enfants quand on voit arriver quelqu'un dans un village où il y a 100 habitants, je vais à l'école à pied le matin avec eux, on reste toute une journée, une semaine, et bah au début c'est la fête dans l'école parce qu'il y a quelqu'un qui prend le cours avec vous, et puis après on est complètement effacé de tout ça, et c'est là qu'on peut poser son regard, qu'on peut regarder un petit peu ce qui se passe, comprendre aussi la richesse et d'où émane cette solidarité en fait humaine qu'on peut voir dans les villages du Cap-Vert, et elle commence à l'école, quoi. C'est-à-dire que on voit des enfants qui ont un niveau scolaire peut-être un petit peu plus élevé que certains, vont instinctivement aider les plus faibles, parce que le professeur peut pas gérer trois niveaux de classe dans la même salle, et en fait il y a vraiment une entraide entre les enfants, il y a vraiment une assiduité à l'école, même pour les enfants qui ont des difficultés. Et ça, j'ai trouvé que c'était très très fort, et donc moi j'ai souhaité poser mon regard là-dessus. Ça a été vraiment quelque chose de fantastique, parce que voilà, après on est avec les enfants, on est vraiment dans une immersion, et on pose son regard sans méchanceté, sans vouloir préjugé, voler des choses. On est sur l'instinctif, et ça c'est quelque chose que j'adore vraiment essayer de retranscrire. Alors après voilà, donc il y a des gens qui me disent il y a vraiment de l'émotion dans tes images. Alors il y a de l'émotion, oui, parce qu'il y a une proximité établie par l'immersion et par le fait d'être un petit peu à la fois dans le décor, mais il y a aussi pour moi le fait d'avoir supprimé la composante couleur, qui épure un petit peu l'image et qui va vous donner une force et une accroche. C'est-à-dire que une photographie couleur, notamment dans des pays comme le Cap-Vert ou
ça expose Brésil, partout, hein,
exactement.
Même les maisons, elles sont fortement colorées. Enfin, je peux parler de Saint-Tintin et de Saint-Mémy.
Et oui, et donc Mindelo. En fait, vous allez arriver à faire quelque chose de joli, d'agréable à l'œil, parce qu'il y a des couleurs éclatantes, parce qu'il y a des belles lumières. Mais par contre, quand on compose une image et qu'on est ébloui un petit peu par ces composantes couleurs, on peut avoir tendance à oublier l'accroche et le visage et le ressenti. Et donc du coup, en éliminant cette composante-là, il faut vraiment aller chercher un regard, une expression, et puis une complicité en fait aussi, parce qu'il s'établit une complicité entre la personne photographiée et le photographe au moment du déclenchement, même si la personne n'est pas forcément consciente qu'elle est prise en photo.
Alors comment toi, tu dis que tu es allé la première fois en 2005,
oui,
et puis une troisième fois en 2006.
Ça veut dire que j'y suis allé deux fois en 2005.
Voilà. Donc,
en fait, il passe la moitié de sa vie, quoi. Voilà.
Comment es-tu arrivé dans ton esprit à... Comment est arrivée l'idée de créer cette association?
Alors,
parce que tu es allé, les images sont jolies, tu es photographe, tu es étranger, donc tu passes là 15 jours tranquille, mimille, tu rentres à la maison, encore mieux. Voilà, quel a été ton sentiment? Qu'est-ce qui ça a joué en toi? Qu'est-ce qui a provoqué que tu t'es dit, mince, il faut faire un peu plus que des jolies photos?
Exactement, c'est-à-dire que mon objectif, bien entendu, sans jeu de mots, avec la photographie, et de, quand je fais des images, l'objectif, c'est vraiment de les exposer, de les montrer, de faire passer un message. Et c'est vrai que quand j'ai construit ces photos au Cap-Vert, je me suis dit, j'avais pas d'objectif préconçu, je me suis dit, voilà, je veux faire une exposition, etc. Et au fil du voyage, j'ai vraiment eu un accueil et une spontanéité des gens, c'est-à-dire que sans me connaître, instinctivement, ils m'ont offert des repas à table d'une valeur d'un mois de salaire sur un repas, parce qu'il y a du poisson, parce qu'il y a de la viande. Parce
c'est quoi comme repas, par exemple?
Moi, je me rappelle, un des premiers repas qu'on a eu là-bas au Cap-Vert, ça a été donc du poisson, ça a été de la viande de porc, qui est la viande la plus chère au Cap-Vert, ils n'en mangent absolument pas, des pommes de terre, des légumes, de la salade. Pour trouver de la salade au Cap-Vert, c'est quand même un petit peu compliqué, bien sûr du riz et du maïs. Et quand on voit des enfants quotidiennement qui mangent du riz et du maïs, et quand on voit qu'on a une table
garnie
comme ça, où on pourrait manger presque à 10, ben moi ça m'a fait quelque chose. Et j'ai vraiment eu j'étais pas bien, quoi, parce que je pouvais pas trop exprimer, en fait, mon sentiment. La dame qui avait préparé le repas, elle m'a dit, mais pourquoi t'aimes pas la nourriture? Tu es français, et donc la France, c'est quand même, voilà, ils ont une image aussi des gens qui mangent bien. Et pour moi, ça a été vraiment difficile d'accepter ce repas. Donc j'ai décidé, bien entendu, de partager ça avec les enfants. Ce qui a été drôle, c'est que donc les enfants n'ont pas commencé à manger tant que j'ai pas mangé et tant que les parents n'ont pas donné l'accord qu'ils ont le droit de manger la nourriture qui est offerte à l'invité, quoi. Et donc après, on nous a donné des coins pour manger, pour dormir, on a dormi ensemble. Et pour moi, ça, c'est quelque chose que moi-même, je ne suis pas capable de faire. D'être quelqu'un qui se présente chez moi, que je ne le connais pas, est-ce que je vais lui donner ce qu'on m'a donné au Cap-Vert ?
L'hospitalité,
et
voilà.
Et ça, moi, ça m'a mis une claque, quoi. Et donc, je me suis dit, j'étais pas parti du Cap-Vert, que je me suis dit, il faut que je revienne, mais il ne faut pas que je sois profiteur de ça. Mm-hmm. Et c'est-à-dire que je me suis dit, il faut absolument... avec les moyens qu'on peut nous avoir, leur dire merci d'une manière ou d'une autre, quoi.
Mais il faut savoir aussi qu'il y a un mot magique qu'il y a dans la langue créole capverdienne qui s'appelle amorabèze. Et l'amorabèze, c'est vraiment le sens de l'hospitalité. Chose que nous, Souris des Villes, on a oublié, en fait.
Exactement.
Et... D'aider notre prochain. Et puis voilà. Et entre
l'accueil,
autres,
les
deux îles, mais le sens de l'accueil, mais en particulier les deux îles où cette hospitalité est vraiment très forte et très importante, c'est Saint-Nicolas ou Saint-Antin. Pourquoi ? Parce que quand tu es à Port-Neuf, c'est-à-dire à Saint-Antin, tu rates ton ferryboat. Eh bien, où est-ce que tu vas ? Eh bien, tu vas errer dans la rue, etc. Puis tu rencontres une âme comme ça, une femme qui vient te voir. Ah, j'ai raté mon ferryboat. C'est-à-dire, c'est le ferry qui te relie à Mindelo, à Port-Neuf. Et les gens ont ce sens de l'hospitalité.
Ouais.
Il t'accueille chez toi parce que tu l'as raté, et c'est très important.
Donc c'est vrai que la morabèze qui amène pour moi la saudade, c'est-à-dire que la nostalgie et l'envie en fait de d'y retourner, quoi. C'est-à-dire que on se trouve à l'approche du départ pour revenir en France, même si on est content de revenir sur notre terre, on a quand même quelque chose qui fait mal, quoi, de repartir, parce que il y a eu ces échanges et cette proximité immédiate, cette non-distinction de la classe sociale. Il y a vraiment un lissage et on est sur de la relation humaine pure, sans aucun sous-entendu. Et ça, c'est quelque chose qu'il est difficile à vivre chez nous aujourd'hui, quoi.
Mm-hmm. On part en musique,
Oui, on va partir en musique avec les groupes Ferro Gaita. Le morceau s'appelle « Aguta Disprinda ». Dommage pour mon créole qui n'est pas fameux. Donc, extrait du CD Rei di Funana.
Minha sina é um papai, mamãe e minha mãe. fama ti señor de va por lo que tal que pedo San Juan Bautista, la de fonte y los corazón, ya no hubiera agua distinta, no le va San Juan Bautista, la de fonte y los corazón, ya no hubiera agua distinta. Lembrando o pantafono, lembrando o charo de entreiro, lembrando a somada, uma charo de tudo a levar. Levanta a charo de riva, levanta a charo de vassouro, levanta a cero riva, a companheira já era vazado. Lembrando o pantafono, lembrando o charo de entreiro, lembrando a somada, uma charo de tudo.
Voilà, c'est du Funana, c'est le rey de Funana. Donc c'est, voilà, c'est le gars, l'accordéon endiablé de ce le, grand ce musicien que toi, tu as eu la chance de voir aussi.
J'ai eu la chance de voir, oui, tout à fait.
Oh là là, c'est en concert, alors là, ça devait être quelque chose
de magique. Ouais, c'est vraiment très très fort. Quoi.
Ah ouais. Surtout que là, il vient de sortir un album, j'ai vu au pays, mais pas le temps d'aller le chercher.
Oui.
Carrément le dernier, quatrième album, Rey de Funana.
Ouais.
Et carrément concert live. Alors là, ça doit dépoter dans
ouais, c'est vraiment super. Quoi. C'est, on est vraiment sur un courant musical un petit peu différent de ce qu'on peut connaître. Avec la Morna ou Coladel.
Ça, c'est plus Santiago, l'île de Santiago.
Voilà, c'est plus une influence, on va dire, du courant africain qu'on peut retrouver sur l'île de Santiago, et avec également la partie Batouk, aussi, qui est une culture
Batouk, très africaine.
Ouais, très africaine, tout à fait.
Et même si tu as découvert ce qu'on appelle du colar son, c'est ça ? Comment je l'avais dit, la danse particulière qu'on danse entre femmes, voire même entre hommes.
Ah, la Cola Saint-Jean.
Cola Saint-Jean. Saint-Jean.
Ouais. Donc c'est une danse particulière qui
au rythme du tambour endiablé pareillement.
Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on danse pour la fête de la Saint-Jean au mois de juin en fait.
Ouais, d'accord.
Voilà.
Que même les Portugais ont trouvé que la danse était extrêmement lascive, être extrêmement suggestive. Ils ont dit bon, si c'est comme ça, on vire le tambour du côté Mindelo. Ouais. Et ils ont viré le tambour, mais néanmoins,
ça continue.
Derrière les cases, ça le faisait quand même.
Alors, moi, je voulais revenir à Jean-Philippe Leroy. Donc, tu nous as parlé de cette rencontre exceptionnelle que tu as eue avec les Cap-Verts et les gens du Cap-Vert, plus particulièrement avec les gens de l'île de Saint-Nicolas. Et cette envie que cette rencontre t'a donnée, en plus de faire des photos, bien sûr, de faire quelque chose de plus pour cette population qui... Tu as vu, je ne dirais pas dans les désarrois, parce qu'ils ne sont pas malheureux,
mais ils sont
voilà, dans des grandes difficultés, surtout les enfants.
Tout à fait. En fait, on pourrait définir le Cap-Vert comme des gens pauvres, mais pas miséreux, en fait. Quoi. C'est-à-dire que, voilà, donc, et c'est vrai que moi, parallèlement à ce travail photographique que j'ai fait, j'ai souhaité donc revenir sur le Cap-Vert, revenir là-bas, en apportant un remerciement. Et donc, c'est là où j'ai décidé en fait de créer une première action avec des dons. Donc la première s'est réalisée en 2005. À l'époque, l'association a été créée de façon morale, on va dire, puisque officiellement l'association Regard d'ailleurs, dont je suis président depuis 2006, donc c'est créé en 2006. Mais on a réalisé notre première action d'aide, donc dans les premiers villages là où on avait été reçu avec ma compagne, pour aider les écoles, donc d'un point de vue matériel, au niveau matériel scolaire. Et qui s'est rapidement,
avéré difficile.
Ça s'est avéré difficile.
Les transports, les douanes.
Exactement. Donc on a eu
Amazon.
On a eu gros soucis aussi parce que par manque d'expérience, puisqu'on a souhaité apporter du matériel qui nous avait été donné en France par bateau, ça a été très compliqué. On n'était pas très très expérimenté. On a passé beaucoup de temps pour récupérer notre matériel sur Mindelo. Il a fallu donner de l'argent, bien entendu, pour récupérer récupérer tout ça. Donc on a dit on arrête cette manipulation, on ne récupère plus de dons en France, ouais. Mais on achète tout sur place de façon, et en plus ce qui est intéressant,
c'est qu'il fait un double bénéfice.
Exactement, c'est-à-dire qu'on fait travailler les gens locaux.
L'économie locale, surtout.
Exactement, on prend au niveau des transports, on prend des propriétaires d'ânes, et c'est eux qui nous font le transport pour amener le matériel dans les écoles. Donc du coup, voilà, il y a vraiment, mais je dirais même plus qu'une triple, une double utilité, puisqu'en fait, on fait aussi travailler les propriétaires d'ânes pour transporter un petit peu le matériel. Alors ça, c'était les premières actions. Alors, je ne sais pas si je parle...
Mais justement, par rapport à ton association qui regarde ailleurs, c'est une association qui réalise un projet de développement en faveur des écoles du Cap-Vert, et particulièrement sous l'île de Saint-Nicolas et de Saint-Tintin.
Exactement.
Cette aide est en faveur des enfants, et elle se concentre particulièrement sur l'aide alimentaire, priorité zone rurale, donc les écoles. Exactement. En particulier, pour que les écoles aient leur cantine autonome. Mais comment tu as eu accès à cette information? Parce que moi, je ne savais pas, je l'ai appris aussi sur place.
D'accord.
Avec ton association, tu m'as envoyé un feedback et qui tout d'un coup, j'ai percuté sur le terrain. Effectivement, les enfants au jour d'aujourd'hui, ce pays est en voie de développement. Et donc, les enfants, tous les écoliers mettent à peu près une demi-heure, voire trois quarts d'heure pour arriver à leur école. Et la première chose que les enfants vont à l'école, ils ont un repas. Exactement. Et ce repas est distribué gracieusement et gratuitement via ce fonds qui est le PAM, le Programme Alimentaire Mondial. Mm-hmm. Et cette aide va s'arrêter en juin 2010.
Exactement.
Et c'est là, et ton association, et via cette cantine autonome, c'est un projet qui est vaste,
oui.
Qui est pour ma part, vu d'ici, peut-être gigantesque, même si tu t'occupes que de deux îles en particulier.
Oui.
Comment s'est fait ce choix-là?
Alors,
comment tu as eu accès à cette information liée au PAM?
C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. En fait, tout ça s'est établi en fait sur la durée. En fait, on est maintenant en 2010. Donc c'est vrai qu'on a une régularité en fait dans les interventions qu'on a faites au Cap-Vert, et à chaque fois toujours une, deux, trois ou quatre écoles en plus. Et il se trouve que donc les personnes du Programme Alimentaire Mondial se rendent dans les écoles pour voir un petit peu le fonctionnement, si tout se passe bien, s'il n'y a pas besoin de réfection dans la cantine, dans la partie où on prépare la nourriture. Et ils sont tombés en fait sur une cantine où on avait approvisionné des denrées non périssables en quantité relativement importante, des denrées également des produits d'hygiène, des brosses à dents, des choses comme ça. Et on a été contacté par la responsable du Programme Alimentaire Mondial du Cap-Vert, qui était établi à Mindelo, qui nous a demandé de se rendre à l'agence à Mindelo pour qu'on puisse discuter des évolutions, parce que ce qu'on faisait était conséquent, mais pour que ça soit encore beaucoup plus fort, il fallait qu'on mette en place un plan nutritif ensemble, de façon à être un petit peu plus optimum, et puis à faire des sélections des écoles, etc., et à travailler un petit peu plus organisé, on va dire, quoi. Mmh. Donc ça s'est passé comme ça, et c'est vrai que donc, moi j'ai appris en 2007 donc, que le Programme Mondial Alimentaire qui fête sa 30e année au Cap-Vert cette année, s'arrête. Et aujourd'hui, je dirais que toutes les écoles ne sont pas préparées pour pouvoir donner un repas à chaque enfant tous les jours. Donc il y a des régions qui ont commencé, notamment à travailler sur des jardins potagers. Donc on y a contribué notamment sur Saint-Tinton, sur ce développement de jardins potagers. Aujourd'hui, on travaille avec le ministère de l'éducation capverdien pour mettre en place des projets de développement dit durable, mm-hmm. Parce que l'objectif aujourd'hui, il est vraiment de s'intéresser à développer quelque chose durable.
À long terme.
Exactement,
durable dans le sens à long terme.
Exactement, dans le sens long terme, de façon à ce que les cantines deviennent autonomes en donnant de la nourriture qui vienne à la fois des parents, c'est-à-dire qu'on a des zones, notamment sur Saint-Anton, Saint-Nicolas, des zones de pêche. Donc l'idée est de sensibiliser aussi les parents pêcheurs à donner un petit peu de nourriture dans les écoles. Nous, aujourd'hui, on est sur un financement matériel de stockage, donc notamment des congélateurs pour les zones qui sont équipées d'électricité. Donc ça, c'est un projet qu'on a initialisé en 2009 avec le ministère de l'Éducation de Saint-Nicolas, qui devrait se terminer fin 2011. Et on travaille également donc, sur un projet un petit peu plus ambitieux d'un développement d'une microstructure de pêche sur Saint-Nicolas. L'objectif étant de donner trois postes à des pêcheurs, de leur fournir les moyens matériels, donc notamment un bateau, des filets, un moteur, etc., pour aller en mer, de gérer ça par une personne qu'on va nommer, en fait, un détaché de notre association Cap-Verdien qui sera sur place. Et l'objectif étant de faire une distribution aux deux écoles locales de la zone qu'on a choisie. Une partie va être distribuée à l'école et une autre partie va être vendue pour payer les salaires des pêcheurs.
En fait, il est dit, et tu as raison, c'est qu'en fait, les îles, il y a 10 îles, effectivement, il y en a 9 qui sont habitées, une qui est beaucoup plus principale, qui est Santiago. Pourquoi je rappelle ça? Parce qu'en fin de compte, il y a des îles qui se sont spécialisées. Ouais. Tu vois, par exemple, Saint-Tintin, c'est la ville maraîchère, enfin, l'île maraîchère, c'est là où on cultive beaucoup, beaucoup.
Et le grog?
Le grog, par exemple, Fogo, que je ne savais pas, ben là, il y a une production de vin, par exemple, qui est plus locale et coopérative, que je ne savais pas. L'île de Sal, bon, c'est là, il y a des trucs de sel aussi. Donc, il y a une forme de spécificité, de spécialisation, ce qui fait qu'en fait, pratiquement tout est importé. Bon, évidemment, via du Sénégal, via du Portugal, mais tout est importé aussi entre les îles et ça coûte très, très, très cher. Et ce qui fait que l'importance cruciale qui est donnée à l'école ou l'école pour que sa cantine soit autonome, c'est de ne pas payer les aliments, les fruits, légumes au prix le plus cher, le prix de l'instant. Voilà, c'est de les acheter au prix le moins cher, au moindre prix.
C'est là où je voulais
et permettre de stocker.
Pour demander. Quel avantage a un congélateur ? Que tu nous expliques un petit peu à quoi ça servait. Parce que quand tu dis, bon, ben, on a fourni des congélateurs, bon, ben, oui, mais...
Alors, à quoi ça sert ? Donc, effectivement, il y a deux niveaux. Donc, en fait, le premier niveau, c'est qu'effectivement, les écoles produisent, sur Saint-Nicolas, quasiment toutes les écoles rurales produisent des légumes. Donc, l'idée étant, bien entendu, ils produisent des légumes sur, on va dire, l'intégralité de la période scolaire. Donc l'objectif étant de conserver ces légumes, et aujourd'hui ils ne peuvent pas le faire, donc il y a des légumes qui pourrissent en fait dans le local de l'école. Donc l'objectif premier, c'est de pouvoir stocker en fait les légumes pour en avoir tout au long de l'année au niveau des cantines. Et le deuxième niveau, en fait, c'est de pouvoir accueillir en fait le poisson, donc là où on va développer la structure de pêche pour pouvoir accueillir le poisson qui va être distribué. Et dans les zones où on n'a pas encore de développement de ce type de développement de pêche, les parents vont être contributeurs, en fait, vont être insérés dans ce qu'ils appellent les commissions de cantine décentralisées, et ils vont inciter en fait toutes les familles à contribuer au projet d'aide alimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas uniquement le gouvernement et donc le PAM qui va fournir, mais on va trouver des solutions de remplacement en intégrant les associations comme la nôtre. Et derrière, en fait, le ministère de l'Éducation utilise ça comme un bras de levier pour inciter les parents qui ont un petit peu de moyens pour aller en mer et pêcher, donner de la nourriture à l'école. Et cette nourriture va être stockée dans ces congélateurs. Et aujourd'hui, moi, je le vois bien, quand le responsable du ministère, il intervient dans les écoles, il insiste sur le fait que pour se développer, il faut que tout le monde intervienne dans un projet de développement. Il faut que les associations comme la nôtre interviennent. Il faut que le gouvernement et le ministère d'Éducation interviennent. Mais il faut également que les parents interviennent dans cette solution. Et l'idée, c'est vraiment de créer quelque chose à l'échelle micro dans chaque village pour que tout le monde contribue à donner un petit peu de nourriture. Donc après, il va y avoir aussi un travail sur l'élevage de poules et de porcs pour pouvoir aussi générer de la viande et des œufs pour pouvoir aussi produire des aliments et des protéines en fait pour les écoles. Donc c'est un projet qui est quand même relativement ambitieux, à mon sens, qui démarre un petit peu tardivement, parce qu'on est en 2010.
Le PAM s'arrête en juin 2010.
Voilà, c'est les dernières distributions.
Dans quelques mois.
Voilà, tout à fait.
Là, c'est ça. Ça fait froid, quoi.
Alors, c'est vrai qu'ils ont, là, sur Saint-Nicolas, j'ai visité le magasin dans lequel nous, on a une petite partie pour stocker des aliments. Ils ont, le gouvernement de Saint-Nicolas a reçu, en fait, des dons d'une ONG italienne, notamment en pâtes, en riz, en huile.
Oui.
Donc, effectivement, ça risque de faire un tampon, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un petit sursis parce qu'il y a quelques associations, quelques grosses organisations qui font encore des dons. Mais aujourd'hui, il est vraiment urgent de travailler sur des solutions
à long terme. Et auto-gérées. Voilà.
Ouais, exactement. En fait, tu apportes ce qu'on appelle une forme de concept qui est en fait une aide logistique, hein, tout simplement, pour permettre l'autonomie. Pour ce qui est des cas présents, là, ici, c'est vraiment les écoles en zone rurale, que je répète, sur deux îles. l'île de Saint-Tintin, mais l'île de Saint-Nicolas.
Exactement.
Et particulièrement les cantines autonomes, quoi.
Ouais, c'est vrai que nous, on se positionne pas. On...
Et puis, ce qui est le plus dur, c'est que quand on est dans une milieu rurale, tous les gens ont toujours un petit bout de terre. Et dans ce petit bout de terre, forcément, ils font ce qu'on appelle la culture vivrière.
Ouais.
Et là, ils peuvent toujours donner au moins, même s'ils peuvent pas payer le repas de l'enfant, mais au moins contribuer à donner, la culture qu'il y a à l'époque. Enfin, je sais pas, moi, j'étais au mois de décembre, début janvier, il y avait ce qu'on appelle les petits pois, les pois de Guinée, par exemple, tu vois. Tu vois les gens en train de déboulard, ils prennent ils écossent, quoi, comme les...
Oui.
Voilà. Et ça fait partie, on l'intègre aussi dans la cachoupe, et puis il y a du maïs, donc les gens ayant ce petit bout de terrain, ils peuvent contribuer...
Exactement.
De manière
on est vraiment sûr.
Que ce soit pécunier, parce que
tout à fait.
Dans la zone, je vais te dire, l'argent, c'est plus le troc, on va dire.
On est vraiment dans cette dynamique-là. C'est exactement ça qui se cache derrière cette décentralisation des cantines, en fait, et cette gestion autonome. C'est vraiment de travailler sur. On développe de la nutrition sous un forme jardin, et on incite aussi les parents peut-être à cultiver peut-être un peu plus que ce qu'ils faisaient avant. On les incite aussi peut-être à élever des poules et des porcs, si on travaille aussi sur notamment l'élevage de viande, enfin de porc, et puis la production d'œufs. Dans les écoles, on incite aussi les parents à le faire, parce que c'est quelque chose qui n'est pas insurmontable, quoi, en fait. Je prends toujours cet exemple-là parce que j'ai eu une expérience un petit peu difficile avec une famille. On s'était rendu dans un village extrêmement perdu pour financer une école, une cantine dans un jardim. Jardim, c'est l'école maternelle, en fait, en France. Et en fait, donc moi, j'avais dit, nous, on veut bien financer un petit peu du matériel, mais par contre, il faut que chaque parent contribue à hauteur d'une somme d'argent pour pouvoir payer la personne qui va faire la nourriture. Donc j'avais fait une enquête, et pour savoir si les gens ils étaient tout à fait réceptifs à ce projet.
Capable, puisque là il y a une sensibilisation sur le terrain.
Et l'idée, c'était de travailler sur les gens qui, avec le responsable du village, on va dire, les gens qui ont des moyens auraient une contribution un petit peu plus importante que ceux qui n'en ont pas. Et en fait, j'avais été choqué un petit peu par une personne qui m'a dit, mais moi, il est hors de question que je donne 200 choucoudes par mois pour le repas de mes enfants. Et moi, ce monsieur, avec tout le respect que je lui dois, je lui ai dit, monsieur, moi, je vous ai vu hier soir, vous étiez au bar, vous avez consommé un certain nombre de rhum.
Oui, mais le rhum, ça vaut 10 choucoudes, attends.
Oui, ben, le problème, c'est...
C'est pas cher.
Ouais, c'est pas cher.
Oui, mais tous les jours,
10 choucoudes, il en a facilement bu un certain nombre, et on n'est pas loin des 200 choucoudes. C'est-à-dire, 200 choucoudes, c'est un mois. C'est-à-dire que peut-être en 3 jours, il a consommé l'argent. Et donc ça, moi, quelque part, ça me choque. Et à partir du moment où ces gens-là, et c'est pas forcément les plus pauvres en plus, sont pas dans le jeu, c'est relativement difficile. Donc voilà, aujourd'hui, tout le monde a la possibilité de donner sa contribution. Il faut que chacun fasse un sacrifice, comme ils disent là-bas. Il est important de se sacrifier pour ses enfants, quoi. Voilà.
Alors, on va écouter encore un morceau musical avec Baou. Le morceau s'appelle, et mon créole patine toujours, Estrone et Criollo, extrait de son album Silencio. Thank you. on vient d'écouter Baou avec son morceau Estrone e Criollo, extrait de son album Silence. Pardon pour mon créole.
Non, mais là, c'est vraiment un morceau de bravoure, de dextérité, parce que vraiment, il joue à la guitare de manière très, très forte.
Voilà, vous êtes à l'écoute à l'Aligre FM 93.1 sur .1 et on a comme invité Jean-Philippe Leroy, qui est photographe et président de l'association Regard Ailleurs pour les Cap Verts, une association ONG, on peut l'appeler.
C'est une ONG, hein, oui. Voilà. Et Regard Ailleurs, c'est plutôt Regard de l'intérieur.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs, ah, oui, pour regarder.
Voilà.
L'autre.
Voilà, exactement.
Voilà, autrement. Et en tous les cas, cette action en particulier vise en fait les zones rurales, je le répète, deux îles en particulier, Saint-Nicolas et Saint-Tintin, pour que donc les petites écoles puissent avoir une autonomie quant à la cantine pour ce qui est d'acheter en fait la nourriture au moindre prix, en tous les cas.
Et puis la produire et la stocker. Ouais. Tout à fait.
Alors c'est pour ça que toi, tu veux mettre en place ce projet assez ambitieux qui est d'apporter en fait un bateau pour
on
que...
On ferait carrément construire.
Comme une forme de collectivisation, en fait, on va dire.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que ça, c'est un projet... Enfin, en tout cas, moi, j'ai la volonté de...
Mais dans une aide logistique. Hein, ton concept, c'est apporter des aides logistiques pour que les gens soient autonomes.
Tout à fait.
Pas être désassistés à vie d'éternam.
Exactement.
Comme là, par exemple, là, le PAM, je ne savais pas qu'il était là depuis le 30
ans. C'est énorme.
Et je répète aux auditeurs qui ont pris en fil de route, c'est-à-dire que le PAM, un programme alimentaire mondial, dans les écoles, en tous les cas, du Cap-Vert, eh bien, les enfants reçoivent un repas. Et parfois, c'est leur premier et leur seul repas du jour aussi.
Exactement.
Faut pas oublier de le dire.
Ouais,
hein, tu sais. Et voilà.
Donc en fait, pour revenir sur ce projet donc un petit peu ambitieux, et c'est vrai qu'on devrait le tester à la fin de l'année de 2010, donc l'idée étant de faire construire un bateau donc sur place, en faire don donc à une équipe de pêcheurs. Ces pêcheurs auraient la responsabilité de pêcher, bien entendu, et d'entretenir le bateau. Et comment est-ce qu'on finance tout ça? Donc, bien entendu, nous, on travaille avec nos ressources financières à l'intérieur de notre association. On est aujourd'hui en demande de subvention pour ce projet. Et comment ça va se passer sur place? Donc, l'idée, en fait, c'est donc de créer un comité de surveillance au niveau de la communauté, c'est-à-dire du village, là où on va implanter ce projet de bateau, en y intégrant bien sûr des responsables de l'école, des responsables du ministère d'éducation, des gens, je dirais des gens lambda du village, qui n'ont pas de mandat dans l'association locale, qui n'ont pas de mandat à l'école, des enfants, c'est-à-dire des enfants de l'école primaire du village, mais aussi des enfants du lycée, c'est-à-dire des enfants qui habitent dans le village mais qui vont à l'école, la personne qui fait la cantine, et l'idée étant de vraiment avoir une surveillance sur ce qui se passe. Les pêcheurs, leur responsabilité, c'est vraiment le poisson pêché et entretenir le bateau. Et après, comment ça se passe financièrement? La quantité de poisson ramenée par jour va être gérée par une personne qui va être nommée gérant de ce projet. Mmh. Et l'idée étant, donc, bien entendu, de comptabiliser un petit peu toute la quantité de pêche qui va être sortie de la mer. L'idée étant de découper en fait cette partie de poisson en trois parties. Une partie la plus importante servira donc à payer les salaires des pêcheurs. Une autre partie servira à provisionner en fait le combustible et l'entretien du bateau, parce que ça aujourd'hui c'est un petit peu le problème des pêcheurs, c'est-à-dire que les pêcheurs ils vendent du poisson, ils achètent, ils s'occupent pas trop du
lendemain, de savoir
exactement
ce qui va se passer s'il y a une voile ou un moteur qui se casse.
Exactement, et ce qui se passe c'est que aujourd'hui on se retrouve avec des pêcheurs, des très bons pêcheurs, qui n'ont plus les moyens d'aller en mer parce que le bateau n'a pas été entretenu. Et donc aujourd'hui, pour nous, c'est quelque chose de très important de pas consommer l'intégralité de la vente, mais de provisionner ça sur un compte. Et c'est pour ça qu'il est pour nous très important que les pêcheurs soit responsabilisé sur le bateau et sur la pêche, et une autre personne soit responsabilisée sur la gestion de la production financière de ce poisson, la distribution aux pêcheurs, mais aussi la provision sur un compte pour pouvoir faire l'entretien de ce bateau. Et la troisième partie, qui ne sera pas une partie transformée en financière, mais qui sera une partie qui va être distribuée à l'école donc de la zone où on va implanter ce projet, et puis les deux écoles environnantes. Donc après, aujourd'hui, le projet il est en cours d'élaboration. Il reste à établir un petit peu les pourcentages. Comment est-ce qu'on va faire un montage comme ça? On va signer des partenariats avec le ministère de l'Éducation et avec les pêcheurs sous forme d'un contrat, contrat moral, c'est-à-dire que les pêcheurs vont s'engager à partir en mer tous les jours où la météo le permettra, parce qu'il n'est bien entendu pas question de risquer sa vie pour partir en mer. Mais...
Parce qu'ils sont quand même dans la haute mer, hein, les enfants. Hein, je veux dire, quand tu fais Porto-Novo, Mindelo, au ferry boat...
C'est quelque chose, c'est vraiment la mer est très
ils sont braves, hein, parce que justement l'une des communautés capverdiennes a été fortement poussée à l'immigration et on trouve dans les bateaux de pêche pour la baleine. Tu imagines ? Alors attends.
Donc voilà, et nous on va s'autoriser un petit peu des garde-fous par rapport à ça. C'est que le bateau, on va considérer que le bateau il nous appartient pendant une durée à définir, peut-être la première ou les deux années, parce que on va s'autoriser un droit de regard et un droit de garde de ce bateau si jamais le projet ne se passe pas bien, si jamais voilà les gens respectent pas les contrats, on s'autorisera à reprendre le bateau et à implanter le projet dans une autre zone. Donc on veut vraiment
le temps qu'il y ait l'amortissement quand même un petit peu pour voir
donner
quand même le temps quand même.
On veut voir comment ça se passe. Tout à fait, on veut voir comment ça se passe, l'entretien du bateau, etc. Si le projet il tourne bien et si ça marche bien, mais après le bateau leur appartiendra et ça sera un projet où nous on n'aura plus aucune intervention, si ce n'est si vraiment il y a des gros problèmes de réparation sur un moteur, par exemple.
Enfin, bon,
c'est des moteurs, voilà, ça peut durer une vingtaine d'années, quoi. Enfin, je veux dire, si c'est entretenu. Donc voilà, donc après, on aura un regard sur ce projet-là, mais je dirais que c'est. On laissera une trace et on leur donnera un outil de développement, en fait. Voilà l'idée, en fait, de ce projet.
Alors, il faut citer, en fait, l'adresse mail, justement, ou en tous les cas, l'adresse où on peut envoyer vos dons. Donc, c'est Regarde ailleurs. Donc, montée des Ramus, 26 120 Château Double. Vous êtes dans quelle région, Saint-Étienne,
non ? Non, dans la Drôme, à côté de Valence. Alors, pour simplifier un petit peu, parce qu'aujourd'hui, on est tous modernes.
Oui, Internet, vas-y.
Alors, c'est bien, c'est pas bien, mais bon, sur un moteur de recherche, vous cherchez Regarde plus loin ailleurs, et vous allez tomber sur notre site relativement facilement. Donc après, toutes les informations d'adresse, tous les rapports, on édite un journal interne, etc. C'est-à-dire qu'on veut absolument être complètement transparent sur tout ce qui est chiffres, sur tout ce qui est finance, et sur tout ce qui est projet. Donc, vous pouvez bien entendu sans modération consulter notre site et on est sur un projet de mise en place d'une petite antenne sur Paris parce qu'il y a une communauté capverdienne sur Paris
assez importante
discrète quand même,
très discrète, mais nous on aimerait un petit peu dynamiser tout ça
avec
des soirées, avec des expositions. Moi j'ai réalisé un film pour le carnaval de Saint-Nicolas en début 2009. On aimerait mettre un petit peu en place tout ça et se rendre un petit peu plus visible sur Paris, rencontrer des Capverdiens et des non-Capverdiens sur ce projet. Et on a beaucoup de choses à dire, à échanger par rapport à ça.
Oui, parce que, effectivement, tu as raison, parce qu'ici aussi, il y a aussi les acteurs, même si l'immigration, elle est loin, mais elle est là aussi. Parce que, je veux dire, le problème des pays en voie de développement ou des pays émergents, c'est que la fuite des cerveaux. Je veux dire, le fait que les gens partent avec les diplômes et puis ils vont faire leur avenir ailleurs, quoi.
Exactement.
Et parfois, ils reviennent au pays uniquement pour la retraite. Moi, je vois, vu d'ici, à Mindelo et Saint-Anton, ça se construisait quand même pas mal, quoi.
Ah, oui, tout à fait, oui.
Donc, vas-y, Marie.
Alors, tu as parlé des constructions et j'étais en train de penser, bon, tu as fait plein de projets par rapport à tout ce qui était scolaire... Bon, les jardins potagers dans lesquels tu contribues, les congélateurs donc de conservation de la nourriture. Tu as aussi l'idée de créer cette micro-entreprise pour les bateaux, la vigne, à ne pas oublier.
Oui, ça, c'est quelque chose.
Mais les développements touristiques solidaires...
Alors, effectivement...
Parce qu'on parle beaucoup du Cap-Vert, on le voit dans presque toutes les brochures, toutes les agences voyages. On voit travers.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que moi, j'ai un regard un petit peu...
sceptique.
Pas un petit peu, énormément négatif. Ouais. Énormément négatif par rapport à, par rapport à cela. Alors, bien entendu, on peut se positionner. Enfin, c'est toujours une histoire de regard et de focus. On peut se dire, ben non, on développe le tourisme de masse, notamment sur l'île de Sales et l'île de Boa Vista.
Donc, elle ça est va... sacrifiée, hein, l'île de Sales. Hein.
Exactement. On va créer de l'emploi, on va créer une dynamique, sauf qu'en fait, ça, c'est la vitrine. Par contre, ce qu'on oublie de dire, c'est que le niveau de vie à Sales, il est énorme, énormément augmenté. Donc, ça en fait, on se trouve dans une situation où les gens qui n'ont pas de travail bah, ne peuvent pas s'acheter ne serait-ce qu'un kilo de riz ou alors même de l'eau. On arrive avec des niveaux de prostitution énormes, élevés. Le trafic de drogue, la criminalité. Donc, tout ça, on n'en parle pas. Et sur l'île de Sales, moi, j'ai été franchement choqué aussi de voir qu'il existe une zone qui s'appelle la zone de Plichku. Plichku qui se trouve en fait derrière les hôtels de luxe. J'ai passé 2 jours là-bas pour faire un reportage photographique, bien entendu, rencontrer ces gens et essayer de comprendre pourquoi ils étaient là. Donc c'est des gens qui habitent dans des maisons en carton, c'est-à-dire qu'on c'est vraiment des cartons collés avec de la terre. Donc je pense que ce qu'on peut voir dans les favelas au Brésil,
oui, c'est un bidonville.
Voilà. Et en fait, ces gens-là, je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous êtes là? Vous n'avez pas de ressources, etc. En fait, ce n'est ni plus ni moins des gens qui viennent des îles du Cap-Vert, donc de Fogo notamment, de Santiago, de Mayo, pour faire les constructions des hôtels sur l'île de Sales. Donc en fait, ils contribuent à développer la richesse et le produit en fait financier de l'île de Sales. Et ces gens-là, on s'occupe pas de savoir pourquoi ils sont là, ils se débrouillent, on leur donne pas la capacité d'accueil, ils sont complètement délaissés. C'est des gens qui ont des compétences, puisqu'ils sont, on va les chercher parce que c'est des artistes, c'est des gens qui font, qui embellissent un petit peu les bâtiments. Et ces gens-là, ils sont pris pour des moins que rien. Et moi, ça me choque, parce que c'est des gens effectivement qui gagnent un peu plus d'argent que s'ils restaient dans leurs îles. Et il y a aucune.
Mais ils en consomment aussi beaucoup plus. Parce qu'ils gagnent l'argent, mais comme la vie est plus chère, donc ça ne leur avance à rien.
Et ben voilà, en fait, ils en envoient une partie à leur famille, mais du coup, ben, comme la nourriture est beaucoup plus chère, donc voilà, ils se retrouvent dans une espèce de
schématique. Il faut savoir que dans l'île de Sales, c'est l'île où tu peux payer en euros, Marlène. Alors que tous les autres pays, toutes les autres îles, c'est encore en chkoud. Enfin, l'escudo portugais, voilà, on retrouve, mais ça n'a pas la même valeur. Mais je ne m'en souviens plus, 1 euro, c'est équivalent à...
En fait, 1 euro, on a 110 chkoud, exactement. Voilà, c'est 110,25 exactement.
C'est vrai.
C'est très, très stable. Et c'est vrai que sur l'île de Sales, on peut payer en euros, mais ce n'est pas du tout avantageux.
Et ça te montre justement le niveau de vie et surtout l'augmentation de tous les prix.
Et c'est vrai que moi, sur l'île de Sales, j'ai connu cette île en 2005, qui... Donc, moi, m'avait déjà choqué au niveau de la structure touristique, mais aujourd'hui, on a construit depuis donc 2005 une ville. C'est-à-dire que là où on était au bord de plage, au niveau des hôtels, on a reculé de plusieurs kilomètres en fait dans les terres pour construire des hôtels. Donc, on a une capacité d'accueil au niveau des chambres, c'est phénoménal. On se retrouve à voir des gens qui habitent dans la boue au milieu des poubelles et des animaux, alors qu'il y a quand même une potentialité de les accueillir. Enfin, je veux dire. Ces gens-là, ils prétendent pas être dans une chambre de luxe 4 étoiles, c'est pas ça, mais quand on a la capacité de produire des milliers de chambres dans une île, ben, est-ce qu'on pourrait pas...
améliorer le quotidien de chacun.
Exactement, et améliorer le quotidien de ces gens-là qui produisent quelque part la richesse.
Et là, il y a une volonté politique, mais là, il y a aussi un appel des investissements étrangers hein, par Bien rapport sûr. À ce tourisme de masse, et dont l'île de Sales est vraiment sacrifiée. Saint-Tintin est beaucoup plus, Mindelo aussi, est beaucoup plus lié au tourisme vert. Mais bon, moi, pour avoir fait juste un... Et je fermerai la parenthèse, fait partie d'un trajet, et je ne citerai pas le nom, je me suis retrouvée au sein d'un groupe qui était que des fous furieux, qui ne voulaient que marcher, qui ne s'intéressaient même pas à la population, ce qui est vraiment dire, ne disaient même pas bonjour en portugais ou en créole. C'était vraiment assez terrifiant. C'est vraiment terrifiant. On voit que les populations sont...
C'était les touristes de base.
Oui, mais pourtant, c'est le tourisme vert.
Oui, pourtant, c'est comme des gens qui s'intéressent à autre chose que
à la beauté des paysages, etc. Mais je trouve que ça fait un peu VWF, hein, excuse-moi de te dire. C'est-à-dire, on préserve tout, puis on enlève l'homme. Hein.
Mais par contre...
excuse-moi, mais c'est ça. Hein, un côté un petit peu extrémiste, mais complet. Quoi.
Ce qu'il faut dire, en fait, sur la réflexion du Cap Vert, c'est vrai qu'aujourd'hui...
Mais pourtant, il faut dire que par rapport à ce tourisme-là qui est vert, quand même, des marcheurs, ils ont su préserver, ils ont réussi à préserver des îles. Quoi. Je veux te dire, l'une s'est développée en contrepartie, l'autre a plus préservé son patrimoine.
Oui, enfin aujourd'hui, mais c'est vrai que je pense que petit à petit, les investisseurs vont gagner les îles qui sont aujourd'hui des îles un peu plus rurales. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, la réflexion que je me suis posée, c'est effectivement aujourd'hui, il y a beaucoup de touristes de masse au Cap-Vert. C'est vrai qu'il y a vraiment deux tiroirs de tourisme au Cap-Vert. Et en fait, pour qu'est-ce qu'on offre d'autre aujourd'hui comme tourisme au Cap-Vert, autre que ce tourisme, donc soit de masse sur l'île de Sal ou de Boa Vista, autour du surf notamment. Après, du tourisme qui se dit un peu vert, mais en fait, on est entre les deux, et du tourisme complètement alternatif, où on va développer vraiment l'accueil chez les gens de façon la plus simple possible, sans développer, sans faire de la construction. C'est-à-dire qu'on produit du voyage au cœur des familles, exactement comme moi, je le réalise. Et ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que moi, j'aimerais faire. Le problème, c'est que dans une journée ou dans une vie, on a un certain nombre d'heures, et je suis quand même beaucoup pris par pas mal de choses. J'ai aussi un métier à côté de tout ça, et c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'aimerais... pour lequel j'aimerais contribuer, mais c'est vrai qu'on
qu'il
peut...
y ait un développement, un tourisme solidaire aussi.
Il faut savoir aussi que, un seul bémol, effectivement, je suis participée, j'ai vu l'ouverture de l'aéroport de Mindelo, qui était à peine il y a 15 jours d'être ouvert, et donc certainement cet aéroport au sein de l'île de Saint-Vicent, donc à Mindelo, va certainement contribuer à une expansion et certainement à un tourisme qui va être
un
induit, qui va montrer ses travers, quoi, ses excès. Hein.
Oui, mais c'est vrai que Mindelo, moi, par rapport ma vision par rapport à Sal, Mindelo, c'est la capitale, San Vicente, c'est la capitale un petit peu culturelle. Et moi, je l'ai quand même vu moins se développer que l'île de Sal, quoi. Donc en fait. L'aéroport international, pour moi, il risque de faire plus de tort à Saint-Anton qu'à San Vicente, à mon sens. Quoi. C'est-à-dire qu'à mon niveau, je pense que l'île culturelle, elle est, c'est une ville. Quoi. C'est-à-dire que Mindelo, c'est quand même une grande ville, c'est la deuxième ville du Cap-Vert. Donc c'est déjà, je trouve, développé. Moi, je n'ai pas vu une énorme évolution entre 2005 et 2010. Et à Sal, j'ai quand même vu une grosse expansion. Donc, je pense que ça risque de faire beaucoup plus de développement sur Saint-Anton, qui se trouve une île isolée d'aéroport et qui se trouve très proche de Saint-Vicente. Pour moi, Saint-Vicente, il y a du potentiel à développer, mais c'est déjà une grosse ville, c'est déjà une grosse artillerie. Et on n'a pas cette ruralité, sauf si on parle de monde vert, mais on n'a pas cette ruralité qu'on trouve sur Saint-Nicolas ou Saint-Anton, ou même Brava, ou même Fogo, quoi.
Et bientôt se profile justement le fameux carnaval, parce qu'un carnaval, mais du côté de Saint-Vicente, qui est très fameux, mais toi, tu l'as vu au regard des enfants, qui a donné lieu à une exposition.
Exactement. Alors moi, c'est le regard du carnaval, c'est celui de Saint-Nicolas. C'est-à-dire que je me suis intéressé toujours à mon île de cœur de départ et de découverte du Cap-Vert. Le deuxième carnaval au Cap-Vert, c'est celui de Saint-Nicolas. Donc en fait, moi, je me suis intéressé au Cap-Vert de Villa, dans la ville, et au petit carnaval qui gravite autour. J'ai passé vraiment d'excellents moments avec des gens, bien entendu, que je connaissais. Et c'est vrai que j'ai décidé de faire une exposition au mois d'octobre, oui, au Cap-Vert. Mm-hmm. Donc j'ai exposé 160 portraits d'enfants et d'adultes d'un village. Et on a organisé une grande fête, en fait, dans un village. Il y avait 500-600 personnes dans la rue. Voilà, on a fait un barbecue pour tout le monde, on a offert les photos, donc il y a eu une cérémonie, chaque enfant et chaque personne est venu chercher sa photo tour à tour, distribuée de la main à la main. C'était vraiment quelque chose de vraiment sympathique.
De fort.
Alors, je voulais rappeler le nom de ton association, Regarde Ailleurs. Donc, ton nom, Jean-Philippe Leroy. On peut taper sur n'importe quel chercheur.
Oui, on va pas faire de la pub, mais bon, voilà.
De la pub. sur Internet. Donc, si on marque « Regarde » avec
ailleurs,
un E à la
fin,
ailleurs, donc on trouvera ton association à travers ce qu'on regardera sur Internet. C'est un petit peu l'historique de l'association. Les bulletins qui sont annuels, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça. On édite un journal entre 4 et 6 pages sur le bilan, en fait, en fin d'action. On fait un bilan,
voilà.
Tout à fait.
Sur cela, il y a les contacts dans lesquels on peut faire... toute personne peut faire des dons.
Tout à fait.
On peut aussi acheter tes photos ou tes cartes postales, puisque tu une partie de ces photos et de ces cartes postales que tu as fait exprès pour l'association.
Oui.
Donc l'argent, il va...
J'ai donné les droits, effectivement, d'une vingtaine d'images, en fait, de mes reportages noir et blanc pour en éditer des cartes postales. Et aujourd'hui, cette vente de cartes postales constitue 80% du financement de nos projets au Cap-Vert. Donc c'est quelque chose d'énorme. Aujourd'hui, les adhérents commencent à augmenter un petit peu, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, ce qui nous a permis de produire ces projets, c'est la vente de cartes postales. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose... ça fait partie des fondations de notre association, c'est donc d'aider des populations défavorisées à l'aide de médias culturels, la photographie et la musique également. Quoi.
Alors ton association, bien sûr, vous êtes plusieurs adhérents, rien n'empêche que moi je tape ou je te téléphone ou j'écris un mail en disant « je vais être adhérent, qu'est-ce que je peux faire ?»
Tout à fait. Alors, on a beaucoup de choses. On a beaucoup d'adhérents et c'est vrai qu'on a donc des adhérents de proximité, c'est-à-dire les gens qui sont actifs, donc qui sont bien entendu dans notre région. Mais on a des adhérents à La Réunion, on a des adhérents en Autriche, on a des adhérents dans toutes les villes de France. Et après, alors, on cherche notamment des gens pour faire de la traduction, par exemple, puisqu'on a, même si on se débrouille un petit peu en portugais, on a un petit peu de difficulté pour traduire toute notre communication. Mmh. On cherche des gens pour nous trouver des lieux d'exposition partout en France, pour déployer en fait des petits projets tels que des repas solidaires, notamment dans des restos capverdiens par exemple, sur Paris, dans toute la France, organiser un événement autour de la culture capverdienne. Enfin, on est aussi à l'écoute de propositions. Enfin, on est vraiment ouvert par rapport à cela. On travaille beaucoup avec des étudiants également sur des projets de développement de communication, de partenariat avec
les brosses à dents et tout ça, distribués dans les écoles,
ouais,
entre
par
autres,
exemple,
plein d'autres projets comme
tout à fait, il y a plein de petits projets sur ce niveau-là.
Très bien.
Alors, on va
clôturer
l'émission. On va te dire un grand merci.
Merci
Leroy.
Ouais.
Donc, pour avoir
accueil.
Passé cette heure avec nous et nous expliquer un petit peu le contenu de ton association. On va se quitter avec une musique du Cap-Vert. Et pas avec notre générique. Ça sera Vadou avec le morceau Bida Causa Dou, extrait du CD Dixie Rubera. Donc, moi et Anita, on vous dit au revoir à tous, un bon week-end. Restez à l'écoute d'Aligre FM 93.1. L'émission de Patrick Léon-Émile, version originale. Et nous, on se donne rendez-vous samedi prochain de 18h à 19h pour un nouveau Lusitania. Un grand merci à Alexandre Barthélémy pour la technique. Au revoir à tous et bon week-end.
Au revoir, merci. Joana merece esse descanso, sim. Hoje a Joana vida está cansada. Mas é luta que eu com vida. Per conseguir una vita migliore. Ma c'è lutta che ho con vita. Per conseguir una vita migliore.